Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc, le sujet, c'est de la ferme au restaurant. On accueille Mélia et Florent, des résistants et récoltants, qui vont venir intervenir aujourd'hui sur le sujet. Avant de commencer, on va juste commencer par une petite présentation de Fève parce que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Chez Fève, nous, on facilite l'installation. La transmission des exploitations et l'installation agricole de la nouvelle génération. Pour ça, on a deux leviers. On a une foncière solidaire qui nous permet de financer le foncier, donc l'achat des fermes via l'épargne citoyenne. Donc, on va récolter de l'épargne. Vous avez des livrets A, des livrets développement durable à la banque. Vous ne savez pas trop ce que ça finance. Vous pouvez placer une partie de votre épargne. Dans cette foncière, vous avez également la possibilité de faire des cartes cadeaux pour Noël, je le précise au cas où ça pourrait être intéressant. Et donc concrètement, ça permet d'acheter les terres agricoles et les bâtiments agricoles pour les jeunes qui veulent s'installer, puisqu'aujourd'hui, l'accès au foncier, c'est le principal frein à l'installation parce que les fermes, ça coûte très cher. Voilà, et notre deuxième levier, c'est une plateforme digitale qui s'appelle Lagrange, qui est une plateforme dédiée à l'installation agricole. Vous pouvez retrouver des contenus, des ressources, des outils, qui est tout gratuit. Un annuaire également des structures d'accompagnement et tout ça a vocation à faciliter l'installation, donc à la fois pour se former un petit peu, ouvrir le champ des possibles sur ce qu'on peut faire dans ces métiers de l'agriculture et éventuellement trouver sa ferme et financer sa ferme. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction pour ceux qui ne connaissaient pas Fève. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Mélia et Florent. Donc le thème c'est de la ferme au restaurant et on va commencer peut-être par toi, Mélia. Est-ce que tu peux nous présenter et nous parler des récoltants?
Ouais. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis Mélia, j'ai 36 ans, j'habite à Bordeaux. Mon parcours, ou en tout cas ce qui m'a amené à créer les récoltants, c'est avant tout une envie en tant que consommatrice d'avoir plus de transparence et de traçabilité sur la filière et savoir ce qu'on est en train de manger dans notre assiette, d'où ça vient, comment ça a été cultivé. C'est des interrogations qui sont venues au fil du temps en mangeant au restaurant. Et puis après, des valeurs familiales de bonne vivante, de bien manger, de recevoir, de se rassembler autour d'une bonne table que je porte depuis toujours et qui m'ont poussée, qui m'ont donné envie avec mon mari et associé dans ce projet-là à imaginer le projet des récoltants il y a à peu près 3-4 ans.
Ok, super. Est-ce que du coup, Florent, tu peux faire de même, comme ça, les bases sont posées?
Ouais. Florent, du coup, j'ai 37 ans, moi, je vis à Paris. Moi aussi, j'avais une toute autre carrière avant, dans la finance, et puis j'ai quitté mon boulot en 2015, avec dans l'idée d'essayer de rapprocher un peu la campagne et la ville au niveau alimentaire. Bon, c'était un peu embryonnaire à l'époque, en 2015, c'était des sujets qui étaient moins présents. Et donc, je suis parti un an et demi sur la route pour essayer de rencontrer des gens avec qui travailler, des producteurs. Et puis, rapidement, s'est fait l'envie de matérialiser ça par un restaurant. Mais à la base, ce qui m'a intéressé quand j'ai voyagé, c'était les systèmes agricoles et de comprendre finalement et d'essayer de mettre en valeur à travers un restaurant les systèmes agricoles qui, pour moi, étaient pertinents pour le futur de notre agriculture et de notre alimentation. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 7 ans. Maintenant, on a 3 restaurants et une épicerie qui est par ailleurs importante pour notre système et un projet de ferme qui arrive.
Ok, super. On va voir ça en détail du coup. Mélia, est-ce que tu peux nous présenter plus en détail justement le projet des récoltants? Qu'est-ce que vous y faites? Combien vous êtes? Tu as parlé de toi et ton mari. Où est-ce que vous êtes situés, vos valeurs, etc.
Alors, le projet des récoltants, c'est un projet global du champ à l'assiette. Il a été pensé dans son ensemble dès le début. Donc, ça part d'une micro-ferme qui approvisionne à 100% toute la production de la ferme est dédiée au restaurant-marché, puisqu'en fait, le lieu Les Récoltants, qui est donc dans Bordeaux, à 20 km de la ferme, C'est un lieu où on peut faire ses courses au quotidien et partager une bonne assiette. Donc on rentre par l'espace épicerie et on est totalement transparent sur ce qu'on va proposer à manger. On voit avant même d'aller s'installer à la table du restaurant tous les produits bruts, les nôtres et ceux de nos partenaires, parce qu'on travaille avec une multitude de fermes en local dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, qu'on est allé rencontrer aussi, avec qui on travaille en direct. Et on sait comment sont élevés les animaux, comment sont cultivés les légumes, comment sont affinés les fromages, comment sont vinifiés les vins, etc. Et donc on avance au fond de l'épicerie et le restaurant est caché au fond de l'épicerie. Et en fait, l'épicerie sert de garde-manger au chef et à la cuisine. Donc le menu va changer au fil des saisons, bien sûr, mais un peu plus régulièrement que ça, parce que ça va être surtout au fil des récoltes. C'est plus le maraîcher qui va guider la recette et la carte que l'inverse.
Ok, vous êtes combien du coup aujourd'hui sur le projet?
Alors, on est quatre associés à avoir monté le projet et c'est important cette notion de collectif parce que et une ferme et un restaurant, c'est beaucoup d'un coup et les deux se sont montés en même temps et on avait besoin d'avoir des personnes compétentes sur ces domaines d'expertise, quoi. Donc, on est associé à un chef cuisinier qui gère vraiment la cuisine et à une maraîchère qui s'occupe de l'exploitation, qui s'occupe de la ferme. Et mon mari et moi, on est un peu entre les deux, comme Florent, c'est une reconversion et on a plutôt une formation d'école de commerce tous les deux. Et on est là pour s'occuper de tout ce qu'on ne voit pas, tout l'administratif, les ressources humaines, la compta. Les approvisionnements, les commandes, et puis donner un coup de main opérationnel et au restaurant et à la ferme, parce que c'est que la première année, le restaurant a ouvert l'été 2022, il y a un an. Et pareil pour la ferme, on a eu les clés en janvier 2022, donc on est encore en phase d'installation sur la ferme et on étend progressivement la surface de production.
Ok, super. Et toi, du coup, Florent, combien vous êtes sur le projet? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail?
Tu veux dire en associé ou au global ou...
Ouais, en associé ou global, justement, combien vous étiez au début et maintenant, combien vous êtes?
On a commencé au tout début. J'ai commencé l'histoire tout seul. Après, il y a Clément qui a été le premier chef au Résistant, qui est resté 6 ans après et qui a été mon associé donc pendant 6 ans. Donc, on a commencé par le restaurant Les Résistants qui a ouvert en janvier 2017. Et voilà, au fur et à mesure des aventures, et ben là aujourd'hui en associé actif, on va dire, après il y a des gens qui ont mis un peu d'argent, mais en associé actif, je suis tout seul. Et on est entre 45 et 50 salariés sur les 4 lieux.
Ok, oui, c'est vous, ça, vous avez un peu plus de recul, vous avez
Oui.
plusieurs restaurants, etc. Donc forcément, vous êtes une plus grosse équipe.
Ouais.
Et donc, vous avez tous les deux un modèle un peu différent. Alors, toi, Mélia, tu le disais tout à l'heure, vous avez monté la ferme et le restaurant en même temps. Toi, Florent, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous avez fait construire le projet et comment vous l'avez fait évoluer?
Au départ, ça a été construit en se disant, on va essayer de créer un restaurant qui va le plus loin possible sur la relation qu'on peut avoir avec le monde paysan, et donc de ne pas faire de compromis évidemment sur les produits qu'on achète, et d'aller voir chaque ferme, d'y passer du temps, et sur absolument tous les produits qu'on utilise, d'avoir une ferme qui a un système. Qu'on appelle de nos voeux. Donc, ça implique énormément de travail. Moi, j'ai visité près d'un millier de fermes, quoi, depuis quasiment 10 ans. Je passe beaucoup de temps sur la route. Et voilà. Et après, le système, il s'est construit aussi en partenariat avec les gens avec qui on travaille. Aujourd'hui, on bosse avec 150 fermes, en gros, juste sur la partie cuisine. Et voilà. Et le système, il a énormément évolué entre le premier restaurant où on avait des produits qui arrivaient une fois par semaine, à aujourd'hui où en fait on va travailler, avant on travaillait avec un maraîcher, maintenant on travaille avec 8 fermes maraîchères, avec des légumes qui arrivent un peu toute la semaine. Et voilà, bon, la singularité de ce qu'on fait, c'est que nous, on n'a pas du tout une approche locale, on a une approche de système. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le système est pertinent, pas forcément de savoir s'il est juste à côté de chez moi. Donc, il y a plein de thèmes qui sont importants pour nous, qui ne sont pas l'alpha et l'oméga tout, mais qui sont importants pour nous, comme les semences paysannes pour les légumes, comme les races locales pour la viande, pour tous les fromages, pour tous les produits crémiers, voilà. Comme les abeilles noires, comme les blés anciens, comme pour chaque produit, en fait, on essaie de trouver des systèmes qui, pour nous, portent un sujet qui est important à défendre. Et c'est comme ça qu'on a construit le système. Donc, il n'y a aucun produit qu'on a chez nous qui est pris au hasard. Et voilà, et on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte qu'il soit acheminé dans les meilleures conditions. Et qu'on l'utilise de la meilleure des manières. Le dernier aspect, c'est qu'on essaie de faire tout ça en offrant dans des lieux où le prix de ce qu'on vend est abordable. Faire un restaurant qui s'appelle Les Résistants et donc qui met en valeur le travail de ses producteurs et dans lesquels eux-mêmes ne peuvent pas venir manger. Ça serait pas très cohérent. Donc, du coup, on fait des restaurants aussi. On arrive à essayer de trouver un équilibre économique entre pas faire de compromis là-dessus, pas faire de compromis sur la partie sociale non plus, sur les salaires, sur le temps de travail et tout, pas faire de compromis sur l'énergie, pas faire de compromis sur quoi que ce soit, et en même temps faire en sorte que ça coûte pas les yeux de la tête et que les gens puissent venir, que ce soit le midi ou le soir. Et que ça reste abordable tout en valorisant quand même le travail des gens et ça peut pas être une offre discount si à un moment où les choses ont une valeur. Donc voilà, et puis après le projet de la ferme il est arrivé dans nos têtes assez rapidement mais il a mis beaucoup de temps à se mettre en marche et ce projet de toutes les manières n'a pas d'impact sur la manière dont on travaillera à Paris, parce que le réseau qu'on a constitué est une énorme force et une diversité qui nous nourrit par ailleurs, pas que en produits, mais aussi intellectuellement et dans nos réflexions sur le monde, quoi.
Ok, donc bah là déjà on voit déjà la différence de vos deux modèles. Il y en a un qui était déjà de base créé les restaurants et fermes en même temps, l'autre qui est parti sur un réseau de producteurs avec des spécificités pour le choix de ses producteurs, etc. Donc c'est deux modèles différents et ensuite bah, vous au niveau des résistants, vous arrivez sur un modèle ferme-restaurant dans les prochains mois, on l'en parlera tout à l'heure. Toi Mélia, sur la ferme, est-ce qu'aujourd'hui elle vous appartient? Vous l'avez achetée, enfin du coup tu as parlé de la maraîchère qui s'en occupe. Est-ce que tu peux nous dire quels ateliers, quelles surfaces? Tu as dit qu'elle produisait 100% des besoins du restaurant.
Non,
Ah non.
j'ai dit que
Oui,
100% de la
pardon.
production
Ah oui,
allait au
d'accord.
restaurant, mais
Au restaurant, ok.
c'est pas
Oui, tu as
suffisant
parlé des
pour le
partenaires.
développement. Ouais. Et ça, c'est un choix aussi. Hein. C'est évidemment la part que va prendre la production de la ferme dans tout ce qu'on achète à côté va être de plus en plus importante, mais on n'a pas du tout une volonté d'être autosuffisant ou
Ouais,
autarcique.
ok.
Parce que il y a des questions de terroir, il y a des légumes qu'on cultivera pas bien dans notre terre et qu'un maraîcher d'à côté va très bien réussir et donc on va plutôt privilégier. Donc en fait c'est plus une entente générale avec les maraîchers avec qui on travaille pour travailler des variétés différentes, des espèces différentes et pouvoir proposer le plus de diversité possible parce qu'il y a aussi cette volonté de pédagogie, de sensibilisation du consommateur à pas manger des légumes standardisés et tous identiques, à refaire découvrir des variétés anciennes, oubliées. Voilà, nous, autour de Bordeaux, on a la galeuse des Innes, qui est une courge un peu oubliée qu'on recultive à la ferme, ou l'artichaut de Mâcon, qui est une spécificité locale aussi. Donc, on a cette volonté-là de perpétuer des espèces et des variétés anciennes qui sont un peu en train de disparaître.
Okay.
Puis on travaille beaucoup les aromatiques, les fleurs comestibles, voilà tous ces produits très frais et fragiles qu'on peut cueillir et emmener directement au restaurant dans la matinée même pour que ce soit servi dans la journée, le midi ou le soir, quoi.
Ok, et donc la ferme, elle est sur, tu disais, elle est sur quelle surface?
La ferme, elle fait 8 hectares, mais on n'a qu'un hectare cultivé pour le moment. On se laisse de toute façon de la place pour des rotations de culture, pour créer tout un écosystème. Donc, on ne cultivera pas les 8 hectares. Hein. On a planté beaucoup de haies champêtres et comestibles un peu partout pour redessiner l'espace qui était en fait une prairie, une prairie en jachère pour une partie et une vigne arrachée pour une autre partie. Donc, on laisse aussi respirer et dans laquelle on a semé des engrais verts pour l'instant, le temps que le sol se restructure un petit peu sur cette partie-là. Et on n'est pas propriétaire de la ferme, c'est un fermage.
D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, vous n'avez que l'atelier maraîchage. Est-ce que vous allez faire des ateliers d'élevage, par exemple? C'est
Alors,
peut-être
on
un peu plus
a
vaste, mais.
donc c'est principalement du maraîchage certifié bio et on a un atelier de poules pondeuses.
Ok.
Pour la partie épicerie aussi, on vend nos œufs en direct à l'épicerie et on a planté des petits fruits et on va planter un verger cet automne. Donc ça va se diversifier au fur et à mesure du temps aussi pour vraiment recréer une micro-ferme diversifiée comme ce qu'on faisait dans tous les villages il y a encore 50 ans en arrière, quoi.
Oui, parce que comme tu l'as dit, ça fait pas très longtemps, donc forcément ça va. Il faut
Oui.
le temps de refaire les, de redonner de la vie au sol, à la
Voilà,
soil.
exactement. C'est aussi un projet qui va évoluer au fil du temps. C'est que la première année de vie du projet.
Ok. Et toi, du coup, au niveau Florent, au niveau de la ferme, pourquoi vous aviez fait le choix au départ de partir sur les producteurs? C'était suite à ton tour de France et que vous
Oui,
étiez
au tout, dé
mobile?
au tout départ, j'ai pas envisagé faire une ferme. Pour moi, enfin voilà, c'était pas du tout le projet initial. Et après, en fait, à force de rencontrer des gens, y a plein de choses que tu trouves intéressantes et tu comprends aussi. Il faut pas se le cacher. Tu comprends aussi. À quel point c'est fantastique et hyper intéressant de monter une ferme. C'était pas du tout mon point de vue quand je quitte mon ancien domaine. Voilà, c'est un monde que je connais pas du tout. Donc, en fait, cette idée de monter une ferme, elle a mûri au fur et à mesure. Et déjà, mettre en place ce qu'on a fait aux résistants au tout départ, c'était déjà, ça avait pas été fait et c'était déjà suffisamment compliqué à mettre en place. Pour pas se rajouter ça, c'est venu vraiment dans un second temps, il y a 3-4 ans, où on commençait à mieux comprendre aussi comment on pouvait intégrer ça et l'intérêt que ça avait. On ne crée pas des lieux pour créer des lieux, on crée des lieux qui ajoutent quelque chose à notre tout petit écosystème. On va pas faire de nouveaux restaurants à Paris, ça n'aurait pas d'intérêt, mais on a fait une épicerie, pas juste parce que ça nous faisait plaisir de distribuer. Des produits, mais parce que ça avait du sens dans la manière dont pouvaient fonctionner nos restaurants en concordance avec cette épicerie. Nous, par exemple, on a très très peu travaillé, et ça répond à une question qu'il y avait là dans le chat. On travaille vraiment en fonction de ce qu'on reçoit et il faut que logistiquement ça ait du sens. Travailler des fraises ou des pêches ou des choses comme ça, étant donné les faibles volumes qu'on faisait dans les restaurants, même si c'est des restaurants, on fait 120 couverts jour, voilà, dans la semaine, on va passer 10 kilos de fraises. Faire venir 10 kilos de fraises, c'était impossible. Sauf des fraises qui étaient faites par des maraîchers eux-mêmes, mais tous les petits fruits, et en tout cas, les maraîchers avec qui on bossait ne faisaient pas de petits fruits, et surtout les fruits arboricoles, on va dire, d'été, on ne pouvait pas les faire venir. Bon, bah voilà, à l'épicerie. On va faire 100, 120 kilos de fraises dans la semaine. Et donc là, donc logistiquement, là, ça nous aide à faire quelque chose de plus pertinent. Et c'est vrai pour le fromage, c'est vrai pour plein de choses. Donc l'épicerie, c'est une pierre qui est importante pour rendre le tout cohérent, et notamment au niveau logistique. Et ça nous permet aussi d'être moins dans l'improvisation qu'on l'a été, où chaque jour, chaque service, la carte devait changer. Ce qui est sympathique, hein, comme ça, mais qui crée, pour avoir une expérience régulière et compte tenu du fait que les clients ne valorisent pas la singularité de notre système, et ben, ils vont pas comprendre le fait qu'on ne soit pas super régulier comme le restaurant d'à côté qui commande chez Terroir d'Avenir ou à Rungis. Et donc, du coup, l'épicerie, elle nous permet d'avoir une plus grande régularité parce qu'on n'a plus un maraîcher, mais huit. Donc, s'il y en a un qui a eu un problème sur ses carottes, bah, peut-être qu'il y en aura un autre qui en aura. Et ça nous permet du coup d'être plus ben voilà, d'être un peu plus régulier dans ce qu'on fait, et c'est pas un gros mot de le faire. Donc voilà, certains vont nous considérer comme gros parce qu'on est 50, mais en tout cas, pour faire en sorte que moi, Arthur, on se paye et faire en sorte que tout fonctionne et qu'on puisse offrir aux salariés des bonnes conditions de travail et aux producteurs aussi des partenariats qui leur vont et pas leur faire comme 99% des restaurateurs qui travaillent avec des producteurs, c'est-à-dire leur commander trois carottes et deux courgettes et puis pas passer tout le reste par un grossiste. Et ben pour faire ça, il fallait qu'on atteigne cette taille. En tout cas, c'est notre petit système. Mais c'est ce qu'on disait un peu en off avec Mélia juste avant. C'est que notre système, c'est pas forcément un exemple. C'est notre système, on l'a construit comme ça. Et il a cette réalité-là parce qu'on s'est imposé toutes ces contraintes et l'envie de faire les choses comme ça. Mais c'est pas.
Oui, et après, on est là, enfin, les gens qui sont là, c'est aussi pour s'inspirer de ce style
Oui,
de
voilà.
modèle
Ça
et pas
peut être une
forcément
inspiration,
une
mais c'est pas.
copier.
Je vous conseille pas de faire la même
Mais
chose.
on voit que quand même dans les deux modèles, vous aviez des modèles différents. Et pourtant, l'épicerie, c'est quand même apparemment quelque chose qui aussi est important dans les deux façons de
Mais qui
fonctionner.
impose beaucoup d'autres contraintes, et ça en revient un peu à ce que disait Mélia, c'est que nous on l'a ouvert en juin 2022, et enfin ça n'a absolument les clients n'ont absolument rien à voir avec les clients d'un restaurant, et on a mis du temps à le comprendre. Et par exemple, enfin en tout cas nous nos clients, ils veulent que y ait tous les fruits et légumes de saison qui soient là tout le temps. C'est pas du tout la même contrainte qu'au restaurant où c'est hyper simple, tu t'adaptes à ce que tu reçois. En soi, ça paraît, enfin voilà, c'est un réel confort. À l'épicerie tu peux pas. Donc imaginons que tu es ta propre ferme. Jamais on pourrait envisager de faire la même chose dans notre projet de ferme en Bretagne, jamais. Parce que ça imposerait trop de contraintes. Donc, tu es obligé après de trouver d'autres producteurs avec qui travailler et machin. Tu peux pas être autosuffisant là-dessus parce que, comme l'a dit Mélia, ta terre, elle te donnera jamais tous les meilleurs légumes sur tous les trucs. Mais
Et sur
l'épicerie, c'est bien plus compliqué que la restauration. Enfin,
ouais,
de mon point de vue.
et du coup sur l'aspect logistique, si on rentre vraiment dans l'opérationnel, comment ça se passe d'un côté et de l'autre, enfin pour vous amener tout à l'épicerie et ensuite effectivement ils choisissent
Non.
les restaurants, ou est-ce que vous amenez au restaurant directement,
Non,
comment vous faites logistiquement?
donc tu as des palettes qui viennent de toute la France, y compris de la Corse en ce moment, avec les agrumes. C'est un sujet intéressant, les agrumes d'ailleurs, vis-à-vis du transport et vis-à-vis de nos amis siciliens et tout. Mais on pourra en reparler. Mais en gros, nous, on a toutes les palettes qui partent de partout en France avec des gros camions et qui arrivent à Rungis, où là, on a un logisticien qui prend toutes ces palettes et après, toutes les cagettes sont notées avec un code par lieu. Et puis eux, ils refont les palettes par lieu. Et puis après, ils livrent chaque lieu. Donc, encore une fois, il y a une vraie différence. Il y a deux Rungis. Il y a le Rungis où tu achètes tes produits Rungis, et il y a le Rungis qui est juste une plateforme logistique. Et voilà, et nous, on utilise cette plateforme logistique parce que tous les camions qui transitent dans ce pays passent par Rungis. Donc,
Ouais, c'est important de le préciser parce que tout le monde ne le sait pas, ça, que
non, non, voilà, non, parce qu'il y a toujours un truc où tu dis, ah ouais, mais du coup, vous achetez un Rungis. Non, non, ça n'a rien à voir. Il y a des camions qui rentrent dans un entrepôt et d'autres plus petits qui repartent parce qu'on ne peut pas rentrer avec un 36 tonnes dans Paris. Et voilà, mais
non, mais c'est des contraintes qu'il faut connaître aussi.
c'est. Voilà, pour l'instant, on choisit de pas internaliser ce dernier kilomètre, même si ça fait plus qu'un kilomètre, contrairement à d'autres systèmes comme Terroir, comme le Zingame et tout, qui eux l'ont internalisé, voilà, mais qui ont une autre taille aussi. Mais donc la vraie question après au niveau logistique, c'est de savoir si tu internalises ou pas le Rungis Paris.
Ok, et toi, Mélia, du coup, là, au niveau de la logistique entre la ferme et Bordeaux, bah, vous avez moins de
Oui.
route, du
Nous,
coup.
on a un seul lieu et on le gère en interne pour l'instant, donc c'est très artisanal et c'est nous-mêmes qui le faisons. On récolte le matin, on charge ça dans la fourgonnette et puis on livre le restaurant et tout arrive et après on dispatche entre ce qu'on met à l'épicerie, ce qu'on met, ce qui part directement en cuisine. Voilà, c'est ce qui est intéressant en tout cas, comme l'a dit Florent, la partie épicerie, c'est compliqué parce que c'est périssable, ça s'abîme vite sur l'étal et heureusement qu'on a le restaurant derrière et c'est lui qui transforme et c'est lui qui utilise et c'est lui qui valorise des produits sur lesquels on aurait beaucoup plus de pertes si on avait ouvert qu'une épicerie. Après, Pourquoi on a ouvert l'épicerie et pas qu'un restaurant? C'est une bonne question. Peut-être qu'on aurait pu faire qu'un restaurant. C'était vraiment cette volonté de pouvoir montrer les produits bruts, de pouvoir se dire que ce que tu viens de manger là au restaurant, tu peux le racheter chez toi. Tu le fais différemment ou tu t'inspires de la recette du chef, mais tu crées un lien entre l'expérience que tu as vécue au restaurant et ce que tu vas refaire après chez toi. Et puis t'emmènes aussi un petit bout du potager des récoltants chez toi avec on transforme des ratatouilles, des sauces tomates, des soupes et des choses comme ça pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner. On se dit que c'est quand même aussi une possibilité de bien manger avec des produits vraiment de l'agriculture paysanne locale qu'on trouve pas forcément ailleurs. En fait, on a un étal un peu atypique par rapport à d'autres primeurs du centre-ville de Bordeaux, quoi.
Et du coup, Florent, tout à l'heure disait que les gens de l'épicerie, enfin les clients de l'épicerie, sont pas forcément les clients du restaurant. Est-ce que chez vous, c'est la même chose ou est-ce que finalement l'épicerie vous permet de vous faire connaître et d'avoir des nouveaux clients pour le restaurant?
Il y a tous les cas de figure. Il y a des clients qui font les deux, leurs courses et qui vont au restaurant. Il y en a qui font que la partie épicerie parce qu'ils habitent à côté, mais on les voit moins au restaurant parce qu'ils n'ont pas le temps entre midi et deux et que jusqu'ici, on était plutôt un restaurant de jour. On ouvrait sur les horaires d'épicerie, petit déjeuner, déjeuner, goûter. Et on fermait le soir et le modèle va un peu changer. Là, on va ouvrir 3 soirs par semaine à partir de début novembre parce qu'on a justement une demande de clients qui ne peuvent pas venir en semaine, en journée, et qui, du coup, s'agglutinent tous sur le samedi midi, sur lequel c'est un service où on est complet et où c'est compliqué pour nous de. On ne peut pas pousser les murs, quoi. Et à un moment, ce n'est pas confortable ni pour les clients ni pour le personnel. Donc, voilà, on va essayer de fluidifier cet espace en ouvrant 3 soirs par semaine.
Ok, super. Et
Et après, on a quand même l'approvisionnement des autres fermes.
oui, c'est ce que j'allais te demander au niveau
Voilà.
de la logistique des partenaires.
Alors, on essaie de choisir aussi des partenaires qui peuvent nous livrer dans Bordeaux parce que, comme Florent, on n'est pas logisticien et on n'a personne, nous, qui arpente toutes les routes de la région toute la journée pour aller faire pour aller récupérer ce dont on a besoin. Donc, on s'organise. Il y en a qui viennent au marché une fois par semaine dans Bordeaux et donc on récupère au moment du marché, nous, notre commande. Il y en a qui livrent, qui ont déjà leur tournée de livraison dans d'autres points de vente et d'autres restaurants de Bordeaux et donc avec qui ça s'est facilement installé. Mais c'est aujourd'hui, on doit avoir à peu près une trentaine de fermes partenaires avec qui on travaille en direct, en circuit court et qui nous livrent majoritairement directement au restaurant.
Ok, et du coup, vous avez une charte pour sélectionner ces partenaires. Enfin, il y aura la même question pour Florent, même s'il l'a abordé tout à l'heure un petit peu. Est-ce que
Oui,
vous faites sur que du bio
déjà le minimum c'est le bio pour des questions de simplicité, de compréhension pour le consommateur parce que c'est difficile de dire oui, lui il n'est pas labellisé mais il a des pratiques similaires ou il fait comme mais il ne veut pas aller jusqu'au label. C'est un choix, il est discutable parce qu'il y a plein de gens qui font très bien leur travail et qui n'ont pas la certification bio et se posent la question tous les jours de est-ce qu'on travaille avec eux ou pas pour garder ce premier critère qu'on s'était imposé et qui est discutable au fil de l'eau en fonction des partenaires qu'on rencontre. Mais c'était vraiment juste une clé de lecture facile pour le consommateur lambda. Et après,
C'est pareil sur les financements des projets.
évidemment, c'est surtout en allant les voir et en voyant comment ils travaillent, quel est le système mis en place où on valorise l'agriculture paysanne, les pratiques d'agroécologie pour le maraîchage ou les pratiques d'élevage vraiment en plein air, sans antibiotiques pour les animaux. Et puis en goûtant les produits aussi, évidemment, il y a une sélection qui se fait surtout pour un maximum de goût dans l'assiette.
Est-ce que vous avez déjà dû dire non à un producteur? Enfin, Florent, c'est sûr, avec ses mille, mais
Nous, en fait, c'est plutôt nous qui allons vers des producteurs que l'inverse, parce qu'on n'est pas connus encore, en tout cas pas quand on a démarré. Et puis maintenant, on a notre réseau qu'on a constitué sur les premiers mois et qui ne bouge pas, puisque c'est des relations durables aussi qu'on met en place avec les partenaires avec qui on a commencé à travailler. Et si tout se passe bien, il n'y a aucune raison de changer de partenaire. Donc, on a peu de demandes entrantes pour le moment.
Ok. Et toi, Florent, du coup, je suppose que vous avez dit souvent non, mais ça doit pas être évident aussi de gérer cette façon.
Non, parce que tu vas pas, enfin, tu rencontres quelqu'un. Après, Après, en fait, il y a eu beaucoup de gens avec qui on n'a pas travaillé, surtout au début, quoi. Des premières années et demie où j'ai tourné, il reste pas grand monde parce que là aussi les critères, bon, on en revient à la question initiale, qui sont les critères. Les critères que j'avais à l'époque étaient peut-être, enfin, ma compréhension du truc était un peu moins fine. Donc du coup, et puis il n'y avait pas tout un tas de trucs aujourd'hui qui nous permettent de nous y retrouver tous les listings que font maintenant les GAB, les CIVAM, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Donc en fait, il y allait vachement bouche à oreille avec des trucs comme Bienvenue à la ferme qui était pas hyper pertinent. Donc en fait, c'était pas évident. Et puis après, bah, le gros du réseau, il était constitué par bouche à oreille parce que finalement, les gens qui travaillent dans l'esprit qu'on veut, en fait, ils se connaissent tous et il y en a finalement assez peu sur le territoire, malheureusement. Donc voilà, ça s'est constitué comme ça et maintenant notre réseau continue à grossir tous les mois. Il y a aussi certains, on a eu beaucoup de gens qui ont arrêté, qui sont arrêtés, soit pour des raisons économiques, soit beaucoup pour des raisons de retraite. Donc ça demande quand même pas mal de renouvellement. Donc c'est un peu toujours en mouvement. Après, en ce qui concerne les critères, en fait. La manière dont moi je l'ai abordé, c'était donc d'aller voir chaque métier, de voir plein plein de fermes de chaque métier, d'essayer de disséquer un peu tous les choix qui pouvaient être faits par la personne qui essaie de produire ce produit. Donc je sais pas si on prend un exemple du camembert. Bah voilà, tu pars de la prairie, tu parles des choix qui sont faits dans la prairie, tu parles du choix de la manière dont l'espace est structuré, parler de haies, tout comme ça, tu regardes un peu comment l'espace est construit. Évidemment, tous les critères dont je vais parler, tu les apprécies au regard de l'histoire de la ferme. Tu peux pas demander autant à quelqu'un qui vient de s'installer que quelqu'un qui est installé depuis 30 ans. À un moment, il y a des choses, faut pouvoir les mettre en place. Donc voilà, quelle race animale ils choisissent, quelle alimentation. Comment le foin est séché, comment
Ça, c'est pas évident parce que toi, par exemple, vous n'avez pas forcément de formation agricole
Non, mais
et
bon, après,
donc en échange, quoi.
il y a Internet pour te préparer, il y a des livres, et puis après, tu rencontres les gens et avec les gens. Alors que chaque personne pense avoir, enfin, j'exagère un peu, mais pense avoir le bon système. Donc beaucoup de gens sont pas d'accord. Ça peut être des détails, hein, mais tu vas avoir un son de cloche à chaque fois très déterminé sur comment il faut faire ce métier. Après, toi, t'en vois plein, donc tu vois à peu près ce qui marche. Et puis après, t'as le produit final. Donc bon, tu prends le camembert, t'as une dizaine, quinzaine d'étapes, et à chaque fois, il y a des parties prises, il y a des intentions. Et toi, bah, tu mets soit tu te dis bon bah là, il y a une ligne rouge, là, il y a une ligne verte. C'est des choses que vraiment je veux avoir, des races locales. Il y a quelque chose que je veux vraiment pas avoir, de l'ensilage. Il y a quelque chose que voilà. Et à chaque étape, tu trouves des gens qui remplissent tous les critères dont t'as besoin. Et après le bio, moi je suis du même avis que Mélia. Je veux dire, ça doit être une base. Nos 95% sont certifiés. Le peu qui sont pas certifiés. C'est soit sur des y a des trucs très spécifiques comme les alpages. Globalement, y a personne de certifié ou certaines productions en charcutes, notamment en Corse. Mais c'est vraiment, et puis encore une fois, vu qu'on constitue des réseaux assez larges, on se permet de prendre quelqu'un qui est pas certifié si tous les gens qu'on connaît autour et qui le sont nous disent qu'on peut y aller les yeux fermés.
Oui.
Il y a un moment, en fait, les gens, ils vont pas te recommander quelqu'un qui est en rupture complète avec leur système. Et toi, après, tu vas sur place, et au fur et à mesure que tu visites des fermes, tu rencontres des gens. Le gars qui te dit, je suis pas en bio, mais c'est comme, tu le repères direct, en fait.
Ouais.
ça, c'est pas un argument. Si tu as la même chose avec les vins nature et tout, on te dit, c'est nature, mais c'est pas bio. Mais non, en fait. La certif, pour la plupart des métiers agricoles, c'est pas un sujet économique. Et voilà. Mais après, il y a plein de critères. On en a mis une partie sur notre site pour chaque production. Et pour chaque production, Il y a des dizaines de critères qui font qu'on choisit ou pas le produit. Ce qui fait que ça devient très différent comme système que des gens qui disent juste on travaille en circuit court ou on travaille avec des petits producteurs, ce qui ne veut pas dire grand-chose.
Oui, la charte, elle est importante.
Oui, et puis après, c'est pas encore une fois, c'est un choix. Il y a des gens qui vont dire l'ensilage, c'est génial. Bon, c'est un choix. Nous, on fait des choix et on est capable de les expliquer. Le problème, c'est quand tu parles de ces sujets, mais que tu n'es pas capable d'expliquer tes choix parce que tu n'es pas allé sur le terrain. Les gens qui vont sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Mais c'est fondamental, si on veut avoir un vrai engagement, d'aller sur le terrain et de faire comme une des questions était posée, de créer des engagements qui, s'ils ne sont pas contractualisés, sont des engagements un peu à l'ancienne où on se tape dans la main et on ne se lâche pas s'il y a un problème.
Oui, on va revenir aux questions qui sont dans le chat. Vous pouvez continuer à les poser. Là, on va pas tarder à y passer. Il y a juste deux dernières questions que je voulais poser à toi, Mélia. Tu le disais tout à l'heure en off que c'était pas évident de lancer une ferme et un restaurant de front. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un conseil ou une erreur que vous avez fait, par exemple, et qui pourrait servir pour les personnes qui veulent faire la même chose?
Nous, on est encore tôt dans l'installation pour être capable de faire des bilans ou de donner des conseils. Ou... Ça fait 1 an que le restaurant a ouvert, donc on est vraiment juste en phase de construction du projet. On n'est pas encore à l'équilibre. Voilà, ça se met en place au fil du temps. On réajuste et justement, on s'adapte à la demande en faisant des choix des réajustements d'amplitude horaire. Pour le restaurant, je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est celui-ci aussi. Il faut toujours être vigilant entre l'idée de base qu'on a d'un projet quand il est bien dessiné dans sa tête et après quand il est confronté à la réalité. Il y a toujours des ajustements à faire, il y a toujours des contraintes qu'on n'avait pas imaginées. Mais oui, c'est pas évident d'ouvrir, enfin de lancer une ferme et d'ouvrir un restaurant en même temps parce que c'est des métiers différents. Les deux nécessitent d'y être à 100%. C'est beaucoup de travail opérationnel dans les deux cas. Donc nous, on est vraiment contents de l'avoir lancé à plusieurs et d'être quatre associés dans le projet parce que ça permet aussi que chacun puisse se concentrer sur son métier et que les choses avancent. Mais j'ai...
La notion de collectif, tu le disais au tout début, elle est importante
Ouais, nous, je
sur ce
pense que
projet.
oui, on est contents de ce choix-là et c'est important, on avance plus loin à plusieurs et c'est vrai quoi. Je pense que c'est aussi, il y a plein de moments de doute dans une aventure entrepreneuriale et il y a plein de moments difficiles et voilà, c'est bien de se rappeler pourquoi on le fait, dans quel sens on le fait, quel choix on va faire, pas oublier l'essentiel de tout ça.
Ok, bah super. Et dernière question pour Florent aussi. Toi, tu t'en as parlé à plusieurs reprises de la ferme que vous allez créer en Bretagne. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que du coup, c'est un nouveau projet qui est en cours, enfin, qui est presque finalisé.
Ouais, c'est un projet qu'on a construit avec un appel à manifestation d'intérêt de la mairie de Ploemeur, donc dans le Morbihan. Et donc c'est un projet qui a trois jambes, qui a une jambe d'accueil, de restaurant, une jambe agricole, donc on fait, et une jambe gestion d'espace naturel. Donc en fait, on a essayé de créer un système qui permette de repenser l'interaction entre ces trois sujets qui sont hyper importants, les espaces naturels étant aujourd'hui complètement délaissés et en danger. Et donc, voilà, par un agent économique qui est le restaurant, de permettre de voir comment on peut créer un petit système à trois qui fait qu'on arrive à remplir trois objectifs, c'est qui est de cultiver et d'élever avec nos valeurs des animaux et des légumes, d'entretenir et de rouvrir un milieu naturel et de faire en sorte qu'il puisse interagir avec le milieu agricole et de financer tout ça par une activité économique qui est aujourd'hui à plus forte valeur ajoutée que le maraîchage, qui est un restaurant et d'avoir aussi une prise directe, vraiment directe, à quelques mètres entre les champs et la transformation, parce qu'il y a tout un tas de choses par ailleurs sur lesquelles nous, On a travaillé comme la sélection variétale par le goût, donc de semences paysannes. Et voilà, et qu'on aimerait mettre en place. Et ça, c'est assez pratique de le faire avec un lien vraiment quotidien, direct, avec le champ. Donc, il va y
Okay.
avoir 1 hectare de maraîchage, en gros, une cinquantaine de brebis mères pour les copâturages et quelques cochons et quelques poules pondeuses pour commencer. On a pareil, on a 6 hectares et après on va probablement récupérer voilà, 10-20 hectares de land à entretenir, donc ce qui permet d'avoir autant de brebis pour les copâturages.
Ok, super. Et du coup, il y a un point que tu as abordé qui rebond... enfin, qui fait l'ouverture sur une question de Mélanie dans le chat qui était pour Mélia à la base, sur de savoir si la ferme a vocation à être rentable par elle-même ou justement est-ce que le restaurant et l'épicerie qui, en fait, qui permettent d'avoir un projet global qui tient sur
Ouais,
les pattes, quoi.
on l'envisage pas du tout comme des entités distinctes.
Ouais. Et toi non plus, Mélia, du coup, ça fait partie d'un tout. La ferme, elle n'a pas vocation à être rentable en elle-même.
Non, enfin, la ferme va pas vendre à l'extérieur ou oui, aujourd'hui, c'est le restaurant qui achète 100% de la production de la ferme et donc bah, par les volumes produits à la ferme et nécessaires au restaurant, normalement, dans le business plan, ça fait que la ferme est viable au moins pour employer 2 personnes à
Ok,
terme.
donc
Donc
ça,
ça,
c'est
c'est
quand
quand
même
même important.
le problème fondamental qu'il y a beaucoup en agricole, c'est la valorisation du travail qui est fait. Et donc, ça empêche aussi de prendre un certain risque. Donc, du coup, et donc nous, on en discutait aussi un peu hors antenne, c'est aussi de poser la question de la rémunération des différents métiers. Est-ce que c'est normal que la personne qui gère la partie agricole soit moins bien payée que le chef de cuisine? Je crois pas. Mais si on paye aujourd'hui un chef de culture, entre guillemets, le même prix qu'un chef de cuisine, c'est pas évident. Avec des prix de légumes, si on fait des transactions internes, on va dire qu'on fixe un prix sur le prix des produits, ça va être compliqué de rentabiliser l'affaire. Donc, justement, on essaie de faire un pas de côté et de dire, bon, bah, est-ce qu'on peut pas créer de nouveaux systèmes? Et c'est pareil pour la gestion des espaces naturels qui, de fait, va être déficitaire. Mais elle va apporter aussi d'autres choses à la fois à la partie agricole où on va amender tous les fauchages. Ça nous permettra d'être le gros amendement pour nous pour la partie maraîchage. Et par ailleurs, il y a plein de choses dans la lande qu'on va cuisiner. Bon, voilà, mais on peut pas, c'est un tout, c'est un projet qui est un tout et c'est comme ça qu'il faut le penser. Et c'est pour ça qu'on essaie de dire, bon, bah voilà, ça peut être aussi un truc où aujourd'hui, pour entretenir, si notre truc fonctionne, pour entretenir l'espace naturel, et bah, les mairies vont pouvoir dire, ah bah tiens, la mairie de Plumeur a fait ça avec eux. Bah, peut-être qu'une autre mairie pour entretenir des dizaines, centaines d'hectares de landes ou d'autres espaces naturels mettra en place des gens pour créer ce type de système. Voilà. Après, on n'est pas garanti que ça marche.
On espère que ça pourra que ça pourra inspirer aussi les collectivités, oui. Ok. Et après, du coup, je continue les questions qui étaient dans le chat. C'était une question de Thibault qui disait, alors c'était pour Florent, est-ce que vous passez un contrat d'engagement avec les agriculteurs, par exemple 2 bovins par trimestre? Est-ce que vous allez voir les bêtes avant l'abattage, etc.? Est-ce que vous choisissez vraiment les produits?
Alors non, le choix des bêtes, non, parce que on bosse avec
Confiance.
une bonne quarantaine d'éleveurs, donc je ferai ça toute la journée.
Okay.
Après, au fil des années, nous on sait ce qu'on veut et eux ils connaissent leurs bêtes. Donc il y a des périodes d'abattage. C'est aussi un produit saisonnier. Tu fais pas abattre une vache ou un bœuf n'importe quand. Donc eux, ils savent ce qu'on veut. Au fil des années, on a quand même testé pas mal de choses. Donc ils savent exactement. Voilà. Après, une bête, on arrive à l'apprécier de dehors, même si on est le meilleur paysan du monde. Il y a au bout d'un moment, en fait, parfois, on est agréablement surpris ou on est déçu. Après, en ce qui concerne les engagements en termes de nombre de bêtes. Cette année, par exemple, on a fait un calendrier d'abattage sur l'année. C'est très compliqué, en fait. Il faut vraiment que ton activité soit ultra stable. Donc, c'était une demande mutuelle. Hein. Nous, on voulait être beaucoup plus organisés et eux voulaient avoir plus de visibilité sur ce qu'on allait prendre. Sachant qu'il y a beaucoup d'éleveurs en bovins qui n'ont la capacité, qui font 5, 6 bœufs par an et qui n'ont la capacité d'en faire qu'un avec nous. Parce que par ailleurs, ils font de la vente directe. Mais voilà, pour être très honnête, on vient de faire le test sur 2023, là. C'est pas probant. C'est pas probant parce que ça a été une année un peu compliquée en termes d'activité. En 2022, ça aurait très bien marché. En 2023, ça fonctionne un peu moins bien. Donc là, on va un peu rebaisser. Je pense qu'on va repasser au trimestre et tout. Néanmoins, en gros, on se donne des fourchettes avec les producteurs de savoir si on fait entre une et deux, entre un et deux bœufs et machin. Et puis on communique. Donc c'est-à-dire que si on sait qu'en fait ça va être compliqué. Eux, il faut qu'ils aient le temps de se retourner pour soit la vendre à quelqu'un d'autre, soit la passer en caissette et tout. Mais c'est de l'organisation et c'est de la confiance. Franchement, c'est pas extrêmement compliqué à organiser pour nous. Ça l'est un peu plus pour eux. Donc, on essaie de se donner un maximum de visibilité. Mais si à la fin, ça fait que nous, on a trop de viande et qu'on finit par, nous on aime bien quand même cuisiner les légumes et qu'on finit par avoir deux ou trois entrées avec de la viande, c'est pas le but non plus. Parce qu'en fait, on a eu trop de viande parce qu'on avait prévu trop de. Ça fonctionne en théorie si l'activité est stable et donc si on peut se savoir combien on va utiliser de viande 9 mois plus tard, la semaine 45, ce qui n'est pas forcément très évident en fait.
Ok. Et Thibaut, toujours qui essaye de vendre sa viande, mais qui disait, j'envisage de m'installer dans les Vosges avec un troupeau allaitant en race Aubrac. La race locale, c'est la Vosgienne. Est-ce que vous iriez prendre un bœuf d'Aubrac dans les Vosges, par exemple?
Elia, tu veux répondre? Ah bah non, mais toi, t'es pas
Non,
dans la.
oui, c'est pour toi,
Non,
Florent.
c'est sûr. Écoute, l'Aubrac, c'est pas une race qu'on travaille. Aujourd'hui, tu vas peut-être sauter au plafond, Thibaut, mais on valorise quand même. On essaie de créer des partenariats avec des fermes laitières. Donc on essaie de construire une valorisation globale au niveau de la ferme, à la fois sur les produits à faible valeur ajoutée comme le beurre ou la crème, à la fois sur les produits à forte valeur ajoutée. On travaille beaucoup en Bretagne, donc le gouël ou le fromage blanc et tout, ou les yaourts, et puis après des produits qui historiquement sont mal valorisés même en vente directe, qui sont les vaches de réforme, et encore une fois vaches de réforme, il y a vaches de réforme et vaches de réforme. Les veaux mâles et puis parfois des bœufs. Donc, aujourd'hui, je pense qu'une bonne moitié de notre viande, elle provient en bovin en tout cas. Elle provient pas de fermes qui sont sur des systèmes allaitants. Donc voilà. Par ailleurs, il y a des gens qui sont dans les Vosges en système allaitant vosgienne. Et on ira plutôt vers les gens qui font de la Vosgienne en allaitant que de l'Aubrac en allaitant dans les Vosges. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais.
Oui, je pense que c'est assez clair. Ok. Après, il y avait une autre question de Justine qui disait, quelle est la taille pour votre activité au-delà de laquelle vous ne souhaitez pas aller? Quelle est la taille limite pour continuer à bien faire les choses? Bon, là, je pense que ça parle de vos ambitions peut-être à chacun sur le projet, quoi.
Vas-y, Mélia.
Ben là aussi, hein, nous, on a encore trop peu de maturité pour avoir un avis tranché sur la question, mais c'est oui, jusqu'à. En tout cas, le modèle comme il fonctionne aujourd'hui, les partenariats qu'on a avec le restaurant, c'est viable jusqu'à ce que ces partenaires-là n'arrivent plus à fournir les volumes suffisants. Et donc la question se posera de est-ce qu'on change de fournisseur? Est-ce qu'on en ajoute? Est-ce qu'on s'arrête là parce que c'est la limite et au-dessus, bah, du coup, ça dénature un peu le projet d'origine. Voilà, les questions se poseront à ce moment-là si vraiment en termes de volume. Nos partenaires actuels peuvent plus répondre à nos besoins. En tout cas, nous, on n'a pas une volonté de dupliquer notre modèle et d'ouvrir 5 restaurants comme nous et que la ferme approvisionne 5 restaurants. Ce sera potentiellement d'autres écosystèmes. Je sais pas moi, une microbrasserie, pourquoi pas, une boulangerie. Enfin, peut-être essayer d'aller dans d'autres domaines. Pour développer ou ce qu'on essaie de faire là, mettre en valeur un terroir, des variétés anciennes, des systèmes de culture, de production, dans d'autres univers que d'ouvrir d'autres restaurants. Pourquoi pas aussi ce qu'est en train de mettre en place Florent, d'avoir un restaurant adossé à une ferme, vraiment au milieu d'une ferme. C'était notre projet de base, mais on a vite été bloqué par le fait que comment on fait venir les clients à 30 km de Bordeaux, alors qu'on est inconnu et qu'on est, voilà, on n'est pas porté par un projet existant déjà d'avant, on n'est pas porté par un chef et la renommée d'un chef. Donc, on a vite abandonné cette idée-là en se disant il faut plutôt que le restaurant soit déjà dans une zone de chalandise où il va pouvoir vivre et où on va rencontrer notre clientèle, et puis quitte à ce que la ferme soit un tout petit peu plus loin que vraiment la porte d'à côté, quoi.
Oui, mais ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait de faire venir les gens sur une ferme pour venir au restaurant. Enfin, je suppose que, comme tu disais, peut-être qu'il faut avoir de la notoriété, il faut peut-être se faire connaître sur le tissu local. Enfin, ça demande quand même une autre organisation. Il y a peut-être aussi, là, ça revient sur la question de Gwen, sur la pédagogie à réaliser auprès des clients, des consommateurs, de se dire que ça peut être des nouveaux modèles, des nouveaux lieux qui existent. C'est quand même une difficulté, je pense, Florent, auquel vous allez vous confronter peut-être sur cette partie-là qui est nouvelle par rapport à vos anciens projets.
Oui, non, mais complètement. De toute façon, on est à l'aveugle, pour être honnête. Après, bon, on a le retour quand même de certains. Il y a eu une espèce de petite vague de gens qui ont monté des auberges, bon, avec des projets agricoles derrière. Plus en photo qu'en réel. Mais en tout cas, ça n'empêche, ça n'enlève pas qu'il y ait de l'agricole ou pas derrière. Ça n'enlève pas la complexité, de construire des modèles qui économiquement sont des modèles citadins à tous les niveaux dans des milieux ruraux et voilà, il y en a quand même pas mal qui galèrent. Soit il y a un gros soutien médiatique et une renommée, sinon franchement c'est hyper compliqué. Voilà, nous on est dans une station balnéaire à 100 mètres de la mer. Donc c'est un peu différent comme Paris. Et c'est ce que je disais avant, je pense qu'on serait pas allé 30 km plus loin dans les terres et faire la même chose, jamais.
Oui, après,
Le risque aurait été trop grand.
c'est comme sur l'implantation d'un restaurant. Enfin, je veux dire, la localisation,
Ah bah
c'est
oui, non, mais c'est clair, hein,
hyper
c'est clair,
important.
c'est clair, c'est clair. C'est de trouver le bon équilibre où t'achètes pas l'emplacement délirant machin, t'achètes le truc juste un peu moins bien. Mais clairement, j'ai un peu plus de recul que Ménia, mais quand on fait les choses à moitié, ça ne paye pas des masses. Il y a un moment où il faut quand même plutôt prendre le parti d'aller vers quelque chose de relativement sûr, parce que vouloir faire un bout d'économie et être dans un emplacement moyen, eh ben, ça te met rarement dans des bonnes dispositions. Sauf, encore une fois, si tu as une plateforme médiatique importante, ce qui n'est pas notre cas, ce qui n'est pas notre cas, quoi.
Oui, et puis la plateforme médiatique, elle est quand même assez éphémère. Enfin, on peut avoir des articles dans les journaux locaux,
Oui, mais ça
etc. Et
dépend.
puis après,
Ça
bon,
dé... Ouais, ça dépend. Bon, après, ça, c'est un autre sujet qui est... Ça dépend. Disons, il y a des médias où vous êtes, je sais pas, parce qu'il n'y a pas que les médias français, vous êtes dans un média étranger, dans les 10 auberges à faire en France du New York Times,
oui.
vous allez être
Oui,
rempli d'Américains, hein, c'est pas forcément ce que vous voulez, mais
ouais.
je veux dire, ça peut être, bon, et il se trouve que c'est un tout petit monde, donc en fait, c'est toujours toutes les mêmes adresses qui sont dans tous les guides, dans tous les machins, dans tous les trucs. Donc eux, finalement, ils y arrivent bien. Moi, j'avais pris, j'étais allé dans un endroit en Auvergne, là, un truc de très orienté parisien, vin nature et tout, qui s'appelle l'Auberge du Chassignol. Et moi, ça a été une révélation pour moi. J'ai pas énormément apprécié le lieu, mais par ailleurs, j'étais vraiment au milieu de nulle part et c'était plein tout le temps de gens qui venaient de partout en Europe pour le truc. Bon, bah voilà, ils avaient une couverture médiatique énorme et ils étaient remplis dans un endroit, entre guillemets, pas du tout attrayant et très, très, très difficile d'accès. Bon,
Okay.
c'est l'exception qui confirme la règle.
Ouais. Okay. Juste pour revenir sur la question de Gwen qui demandait, qui parle de pédagogie auprès des clients consommateurs, toi, tu avais dit, Florent, au tout début que les clients, ils valorisaient pas forcément le travail de la ferme ou vraiment ils viennent quand même pour parce que vous avez ce côté producteur, bon produit, etc. Je suppose que quand même les gens ils viennent pas par hasard chez vous dans les restaurants.
Ah,
Ouais, les deux, j'imagine.
c'est variable. Il y a beaucoup de gens qui, dans notre restaurant à l'avant-poste, par exemple, on a un vrai problème à ce niveau-là. Hein. Les gens ne viennent pas du tout pour ça.
Ils viennent pas du tout pour ça.
Non,
Et là, c'est quoi
marginalement.
la. Et du coup, là, est-ce qu'il y a une. Au final,
Une
est-ce qu'il
raison?
y a besoin de leur montrer ce que vous faites ou finalement, bah,
Mais
ça
c'est très
marche
dur, en
aussi?
fait. La communication, c'est un vrai sujet parce qu'en fait. On parle sérieusement de ces sujets. Et donc, encore une fois, je disais, on parle de système, on parle de tout un tas de choses. En fait, quand on a monté l'avant-poste, on a monté un restaurant pour mettre en avant le sujet des semences paysannes. On avait fait de la recherche variétale par le goût, comme je l'ai dit, avec un mec qui s'appelait Christophe Coligny en Bretagne. Et on s'était dit, bah, on va faire un restaurant, on voulait faire un truc très végétal, on va faire un restaurant d'application et de recherche sur le sujet. Donc, en gros, on va faire plein de petites assiettes et on va dire, bon, bah, la saison de la courgette, il y a 30 variétés de courgettes, on va faire 30 plats différents qui mettent en avant la singularité de chaque population. En fonction du temps. Truc très compliqué, tu vois. Enfin, ça a pas du tout. Les gens, ils ont dit oui, c'est les résistants plus végétales, mais ils n'ont pas du tout compris le propos. C'est beaucoup trop compliqué, quoi. Et donc aujourd'hui, nous, on est un peu embêtés parce qu'en fait, à Paris, tout le monde dit oui, alors nous, les petits producteurs, gna gna gna, l'engagement, tout le monde est engagé, oui, je suis engagé, je suis engagé. Et en vrai, qui travaille avec le milieu paysan, qui travaille avec le milieu syndical, qui travaille avec les associations professionnelles, qui essaie de faire en sorte de créer des partenariats, qui essaie de réinventer les relations qu'on a et le partage de la valeur qu'on a entre transformateurs et producteurs, aucun d'eux. Sauf que les clients, et là je parle que de l'approvisionnement, je ne parle pas de la partie sociale. On a un métier où globalement on ne paye pas les gens, on les fait travailler trop, on ne respecte pas les. Voilà. Voilà. Quel client va mettre en valeur ça?
Oui.
C'est compliqué. Donc en fait, les gens ils viennent chez toi et disent ah oui bon bah d'accord ils ont un super sourcing et voilà bon mais ça enfin voilà mais c'est hyper compliqué d'aller dans le niveau d'après hein. Ça fait 7 ans qu'on essaye, on a fait un podcast, on fait des événements, bah, je veux dire on donne tout hein, et des trucs qui nous rapportent pas, qui nous coûtent de l'argent, qui nous rapportent pas un copec hein. Et bon bah
Ça, c'est plus par le plaisir de partager ce que vous faites et que vous le faites bien, quoi.
non 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 c'est pas que ça, je veux dire le podcast
Il y a une vraie
c'est
volonté
Non,
militante,
non, il y a une vraie
c'est sûr, de
volonté
rentrer en
militante.
profondeur dans les sujets.
Et de dire, bon, bah voilà, c'est pas. Parce qu'il y en a des podcasts sur le truc. Hein, vous prenez les podcasts des Décotables et machin, il y en a. Hein, sauf qu'on n'aborde pas les sujets du tout de la même manière. On n'est pas en train de dire que tous les paysans, ils ont un chapeau de paille et que c'est génial. C'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout le propos. Alors, nous, à part l'intermédiaire de nos lieux, on fait de la politique. Sauf que les gens, ils veulent juste venir manger. Et ils ont
Peut-être qu'il y en a
raison.
qui vous soutiennent politiquement.
Non, mais il y en
Et
a.
pas
Non, mais je dis
assez.
pas, attends, voilà. Mais il
Oui,
faut
bien sûr.
considérer, c'est ceux qui ont. C'est marqué en gros dans notre épicerie qu'il n'y a que des légumes issus de semences paysannes ou variétés population. C'est écrit en 4 par 3. Hein. Je pense que tu n'as pas 10% de nos clients qui s'intéressent à cette singularité. Sinon, ils arrêteraient d'aller à la Biocoop juste après.
Je vois.
Et pourtant, à la Biocoop de l'Ancry, il y a 800 clients jour, on en a 140. Donc,
Ouais.
finalement, la plupart d'entre eux vont quand même aller acheter des mauvais hybrides à la Biocoop.
Je vois. Ok. Eh bien, sur cette conclusion militante, on va s'arrêter là, puisqu'il est 13h32. On va laisser aller les gens manger. Juste, il y avait Gauthier qui demandait. Qui est intéressé pour avoir plus d'informations sur la ferme en Bretagne. Je pense qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux et peut-être sur votre site. Il y aura des nouvelles bah, de
Pas
vos
tout.
projets. Et...
Pas tout de suite. Il y aura
Pas
des
tout
nouvelles l'été prochain, je pense.
à fait.
Une fois
Ok,
que tous les
oui.
trucs administratifs seront purgés,
Tout
où là
sera signé.
on pourra commencer à communiquer dessus. Mais bon, a priori, ce n'est pas une ouverture avant le printemps 2025.
Ok. Bah, dans tous les cas, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez suivre l'aventure des résistants et des récoltants et voir un petit peu les projets évoluer. Nous, on a deux prochains webinaires qui arrivent, qui sont le 16 novembre et le 17 novembre. Le 16, c'est un témoignage de Simon qui a été financé par la Foncière, qui est donc installé en Mayenne, en arboriculture, noisettes, etc. On a notre webinaire le lendemain sur pourquoi et comment s'installer en bio en 2023, justement pour soutenir un petit peu la filière bio et avec organisé par Bio Nouvelle-Aquitaine, où il y aura le témoignage de Jean-Baptiste et Lucas qui sont installés aussi avec Fève, mais pas que, il y aura d'autres intervenants. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Mélia, merci Florent pour toutes ces explications, c'était très intéressant. Je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. En tout cas, Thibaut, tu n'as pas sauté au plafond, tu as remercié Florent pour l'explication. Donc, ça va.
Merci à tous.
Merci et bon
Merci beaucoup.
appétit à tout le
Au
monde.
revoir.
Bonne journée, au revoir.